une leçon à nous donner. Avec ses mains, qu'est-ce qu'il faisait? Il se frappait la poitrine et il disait, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. C'est pas de la rigolade. Qui suis un pécheur, c'était vrai de vrai. Il était convaincu d'être un pécheur. Et vous savez, l'Écriture le disait, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il était perdu. Et il le réalisait. Et il en était profondément malheureux. Mais le verset 14, quelle est la réponse de Jésus? Parce que ça, c'est pas mon enseignement, hein. Oubliez-moi. Et dites-vous bien que tout ce que vous aurez entendu, vous pouvez le retrouver dans l'Écriture. Je vous le dis, celui-ci, donc le publicain, descendit dans sa maison justifié, c'est-à-dire rendu juste, parce qu'il donnait raison à Dieu quand il dit que tous ont péché. Il avait donné raison à Dieu, et c'est cela qui nous rend juste, c'est de donner raison à Dieu. Dans le témoignage qu'il rend de nous, que nous sommes perdus, et dans le témoignage qu'il rend de son Fils, que lui est réellement le Sauveur, qui a payé un si grand prix pour nous racheter. C'est lui qui redescendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous connaissez l'autre parole de Jésus ou de ses apôtres, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Jésus disait qu'il était venu pour faire miséricorde aux pécheurs. Quand un homme reconnaît sa misère et se sent misérable, toute la miséricorde de Dieu s'approche. Ah, pour connaître la vraie miséricorde de Dieu, il faut avoir reconnu notre propre misère. Alors maintenant, j'en viens, et c'est bien le moment, n'est-ce pas, à la seconde parabole, qui, à première vue, semble au fond répéter les mêmes choses que la première. Nous sommes au chapitre 15 de Luc, et Jésus, après avoir parlé de la brebis perdue, qu'il a retrouvée, de la joie qui se trouve dans le ciel pour cette brebis qui est venue à repentance, plus que pour 99 justes qui n'avaient pas besoin de repentance, il continue en prenant alors non plus l'exemple d'un homme qui était, comme nous l'avons vu ce matin, qu'est-ce qu'il avait comme profession cet homme? Un berger. Et qu'est-ce qu'il avait comme possession? Sans brebis. Et ce que nous avons vu, c'est le prix qu'il attachait à chacune de ces brebis. Une seule qui était perdue l'amenait à quitter les 99 pour aller chercher celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Alors maintenant, il prend une femme comme exemple dans sa parabole. Ou quelle femme, verset 8, si elle a 10 drachmes, dans les versions en français courant, il est dit tout simplement 10 pièces d'argent, parce que la drachme, c'était la monnaie grecque qui valait un denier romain environ. Et le denier romain, c'était le salaire que gagnait un travailleur dans une journée. Son salaire était d'un denier. Donc, une drachme représentait le salaire d'une journée de travail pour un homme. Eh bien, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin? Et de nouveau, je voudrais que vous souligniez ça. Elle cherche jusqu'à qu'elle l'ait trouvée. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines, et elle dit, mais réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie Et ici, il est ajouté quelque chose. Avant, c'était simplement dans le ciel. Tandis qu'ici, le Seigneur ajoute, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Eh bien, je pense que vous êtes d'accord avec moi que cette seconde parabole, comme je disais tout à l'heure, offre une grande analogie avec celle de la brebis perdue. La seule différence notable, c'est qu'au lieu d'une scène champêtre, d'une scène de bergerie au désert, elle nous décrit, cette parabole, un tableau d'intérieur. Une scène qui se passe dans une maison. Notez bien la chose. Je dirais pas une scène de ménage, mais on pourrait dire, mais ça c'est une scène qui se passe dans un ménage. La femme, maîtresse de maison, se rend subitement compte que dans sa petite réserve où se trouvaient 10 drachmes, donc c'était pas une fortune, hein, mais c'était quand même le salaire de 10 jours de travail, mais donc pas même 2 semaines. Mais elle est là qui, tout à coup, se rend compte qu'une journée de travail est perdue. Et pour elle, cela compte. Donc, nous sommes mis dans cette seconde parabole en présence d'une femme. J'ai déjà dit que la drachme, c'était la monnaie grecque, une pièce d'argent, et ces 10 drachmes n'étaient donc pas une fortune, mais pour cette femme, une seule de ces pièces perdues, eh bien c'était beaucoup. Cette drachme avait du prix pour cette femme. Et alors on se pose une question, comment cette pièce s'était-elle perdue? Et où la retrouver? On a pensé, selon la coutume orientale, que cette femme avait mis ses 10 draps dans le bandeau que les femmes en Orient portaient autour de la tête. Leur trésor, enfin l'argent, les choses précieuses, elle les mettait dans un bandeau qu'elle portait sur la tête, même si cela pouvait être lourd, et quand un visiteur venait, elle se couvrait d'un voile d'apparat. Mais elle gardait toujours sur elle ce trésor, enfin ces pièces d'argent. Et alors on peut très bien penser qu'une maille, qu'un fil s'était distendu et qu'une des pièces était tombée. De sorte que où devait-elle chercher cette pièce? Dehors? Non, quand on a perdu quelque chose, la première chose à laquelle on pense, c'est où ai-je pu perdre cette chose-là? Je ne suis pas sorti, alors on fait son petit contrôle, je ne suis pas sorti de la maison, donc elle doit être dans la maison. Elle doit être à l'intérieur. Mais, je ne sais pas si vous avez vu les maisons palestiniennes, et surtout des maisons de pauvres, ça n'a qu'une pièce, ça n'a pas des meubles et un coffre-fort. Hein? Alors vous comprenez pourquoi on pouvait mettre ça dans un bandeau, comme il y en a qui mettent leur argent dans une ceinture pour l'avoir sur eux. Eh bien, cette femme, elle comprend qu'elle doit chercher dans sa maison. Et dans ces maisons qui n'ont pas de grandes ouvertures, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Alors elle fait le nécessaire, elle allume une lampe, même en plein jour, hein, pour chercher à trouver sa pièce perdue, elle va dans tous les recoins, puis qu'est-ce qu'elle emploie encore? Pas le balai d'une sorcière, hein? Le balai du ménage, et elle se met à balayer aussi dans les coins et peut-être à tamiser toute cette poussière parce que souvent le sol d'une maison arabe, eh bien, c'est simplement de la terre. C'est la terre, c'est un sol de terre. De sorte que vous voyez cette femme active et qui cherche diligemment cette pièce perdue. On a pensé que ces 10 drachmes, c'était peut-être sa dot. hein, parce que si elle s'était mariée, elle avait reçu une dot et puis elle conservait précieusement cette dot. C'était pas grand chose, mais c'était quand même beaucoup pour elle. Et une pièce perdue la désolait. Donc, la pièce n'était pas loin. Elle était dans la maison. Alors, avec un peu de lumière, en allant dans les recoins, elle finit par la trouver. Qu'est-ce que la pièce a fait, elle, pour que sa propriétaire la retrouve? Elle a fait encore moins que la brebis. La brebis pouvait être sensible à la voix du berger, mais la femme pouvait siffler sa pièce. Hein. Viens, 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 viens. Hein? Ah, j'ai entendu cela même aujourd'hui. Si une pièce d'argent avait de l'intelligence, elle irait se placer à la banque. Je ne me souviens plus quoi. Elle irait se placer elle-même à la banque qui donne le plus d'intérêt. Si une pièce d'argent avait de l'intelligence. Mais si les brebis n'ont pas d'intelligence, les pièces d'argent en ont encore moins. Vous êtes d'accord? Et pourtant, une pièce d'argent, c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez quand vous prenez une pièce d'argent? Une effigie. Il y a sur la pièce d'argent une image qui est celle ou d'un roi ou d'un empereur. Hein. Elle est gravée. Elle porte un cachet. Mais la pièce d'argent, c'est du métal. C'est insensible. C'est inerte. Et la pièce d'argent a beau porter l'image, l'effigie, comme nous le disions, d'un roi ou d'un empereur, elle est égarée, elle est dans la poussière, elle est dans les ténèbres, elle est parfaitement inutile. C'est vrai ou c'est faux? La pièce d'argent perdue, elle a sa valeur, mais là où elle est, elle n'a aucune utilité. On ne peut rien faire avec une pièce perdue. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Eh bien, cette pièce perdue est l'image de l'âme humaine, marquée de l'effigie de notre Créateur. Mais cette âme s'est égarée et est perdue dans les ténèbres. Et malgré sa valeur, on ne peut rien en faire. Qui est-ce qui sait que cette pièce a de la valeur? La pièce ne le sait pas. Mais la femme, propriétaire, sait qu'elle a de la valeur. Et voilà pourquoi c'est la femme qui cherche cette pièce. La pièce ne fait rien pour se laisser retrouver. Alors on se pose la question, alors que représente cette femme? Dans la parabole de Jésus, je sais très bien qu'on nous dit, faut jamais trop presser les paraboles, n'est-ce pas? Parce qu'on arrive à des déductions un peu abracadabrantes. Et bien que le Seigneur m'en préserve. Mais je ne puis croire que Jésus ait dit des mots qui n'avaient pas de sens. Il nous faut rechercher le sens. Que représente cette femme qui cherche sa pièce perdue? Quand je lis le livre des Proverbes, j'apprends que la sagesse éternelle, la sagesse divine, la sagesse qui a tout créé au commencement, et cela nous a été rappelé dans le diaporama, eh bien, c'est le Seigneur, c'est notre Créateur, qui a mis son image sur toutes ces créatures, et pour les retrouver, pour faire redécouvrir à ces créatures son image. Dieu s'est incarné en Jésus. La lumière est apparue dans notre monde de ténèbres. La sagesse de Dieu est apparue parmi les hommes. Et voyez-vous, la lampe est une lumière. Quand on voit les petites lampes à huile encore, hein, qu'on peut avoir, c'est une lumière, une lampe en Orient, dans un vase d'argile. Eh bien, le Seigneur, lumière du monde, s'est incarné, a revêtu notre chair, la parole c'est cette chair, la paix d'une âme, l'âme du pécheur. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut le prix de l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu s'est incarné pour sauver ton âme. Et pour donner à ta vie une utilité qui était totalement perdue. La pièce d'argent, je le souligne, elle ne savait pas qu'elle était perdue, elle ne sentait rien. Mais quand le Saint-Esprit commence à convaincre une âme de péché, alors on réalise que notre vie pourrait avoir un autre but, parce que le péché, c'est justement cela qui nous fait manquer le but, un autre but. Vous dites, mais je ne sens pas que je suis perdu. Je dirais, même si vous l'avez senti. Vous l'avez senti un jour que vous étiez perdu? Ce n'est pas une question de sentir. Faites attention à cela. Ni à la quantité de vos larmes. Est-ce que vous les avez recueillies dans un bocal, vos larmes? Vos saintes larmes? Ah, moi, je peux vous montrer mes larmes. J'ai tellement pleuré sur mes péchés. On l'a vu ça tout à l'heure. Un peu à la rigolade. J'ai tellement pleuré sur mes péchés. Attention, attention. Hein. Vos larmes. Les vraies larmes. Vous savez, on ne les met pas dans un bocal. C'est Dieu qui les recueille. C'est un verset d'un psaume. Tu mets tes larmes dans tes vaisseaux. Elles sont toutes écrites dans ton livre. Et elles ont du poids pour le cœur de Dieu. Les vraies larmes d'un homme qui se repent, même après des années de conversion. Qu'est-ce que vous découvrez après des années de conversion? Est-ce que ça a tellement changé? Oh, dans nos cantiques, hein, tout est changé. Alors, les cantiques, c'est triomphaliste. Hein. On est des hommes nouveaux, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Mais, quand on se tient devant Dieu, on se dit, mais qu'est-ce que tu viens de chanter? C'est pas tellement changé, au fond, ma vie. Qu'est-ce qu'on découvre après une autre conversion? Que la chair ne s'est pas amélioré, que la chair reste la chair. Oh, mais vous me direz, mais moi je suis dans la maison, bien oui, je voudrais que souligner que là, la pièce perdue, elle est dans la maison, elle n'est pas éloignée, comme la brebis tout au fond du désert. Elle est là dans la maison, mais elle ne sert à rien. Et c'est une expérience que vous devez faire après votre conversion, que vous ne vous êtes pas amélioré. Si vous aviez pu comprendre cela aujourd'hui, je dirais, il y a progrès. Car quand on a compris que notre conversion n'est pas une amélioration du moi, n'est pas une amélioration de la chair, on ne compte plus sur soi-même et on en a fini avec nos éternelles déceptions, avec ces doutes lancinants qui reviennent sans cesse, qui nous troublent. Est-ce qu'elle était vraie, ta conversion? Est-ce que tu as assez pleuré sur tes péchés? Est-ce que ton baptême était valable? Est-ce que tu ne dois pas te refaire baptiser? Parce que depuis ce baptême-là, tu en as déjà tellement refait des péchés qu'il faudrait bien encore illustrer que tu es en remords. Hein, ou que tu as des remords. C'est pas un peu ça? Ah, dans la maison, il faut que je réalise que je n'ai aucune valeur, que je n'ai aucune utilité, que cette image du Seigneur, de mon roi, elle est dans la poussière, elle est dans la boue, et qu'il faut l'intervention du Seigneur, qu'il faut qu'il mette sa main sur moi, qu'il faut qu'avec l'Esprit de Dieu qui nous éclaire sur notre véritable état, que la chair ne peut pas faire le bien, et que c'est seulement par le Saint-Esprit que nous sommes capables de vivre une vie authentiquement chrétienne, eh bien, quand on a saisi cela, alors on laisse la main d'amour de cette femme, de ce Dieu au cœur de mère, et qui ne vous a pas sauvé simplement pour que vous ayez une vie en dents de scie, hein, vous savez ce que c'est. Un moment, vous êtes presque au ciel, au paradis, ça va très bien, hein, et puis tout à coup, c'est au fond de la dent, puis après vous remontez, puis après vous descendez, oh, c'est pas une vie, ça. Il faut que vous ayez une délivrance. Et cette délivrance, elle ne se trouve que si vous laissez le Seigneur vous posséder. Oh, vous me direz, mais moi, je possède le Seigneur. Mais c'est encore plus grand quand on sait que c'est lui qui nous tient. Oh, on dit, mais moi, j'ai choisi le Seigneur. Je me suis levé ou j'ai levé la main. Ou quoi? Ben, je me suis avancé, tout ce que vous voudrez. Hein. Les méthodes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui me frappe, c'est que quand c'est l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de durable, oui, il y a des luttes, il y a des chutes, mais nourries par la parole, est-ce qu'on tombe et qu'on ne se relève pas? Est-ce qu'on se détourne et qu'on ne revient pas? Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois gardé du péché? Il faut que je m'abandonne dans sa main. Quand la femme a pris la pièce dans sa main, elle avait une valeur, elle pouvait l'utiliser. Mes frères et sœurs, et je l'ai demandé pour moi-même, que cette parabole de la drache perdue, qui est dans la maison, là, qui est tout près, il n'y a pas à aller la chercher au loin, on sait où elle est, eh bien oui, Seigneur. Je veux maintenant m'abandonner à toi. Alors je laisserai le balai faire son travail. Que de choses qui doivent sortir. Hein? On voudrait être rempli toujours, mais laisser un peu le balai faire le vide pour que le Seigneur puisse s'installer vraiment dans la joie, dans la paix. Oui. C'est cela que nous voulons comprendre. Nous ne voulons plus vivre selon la chair. Nous avons encore cette chair en nous. Mais ce que nous comprenons quand nous lisons la parole, c'est que Jésus n'est pas seulement mort pour porter nos péchés et pour subir notre condamnation, de sorte qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est mort pour rendre possible notre propre mort. Parce que deux fois nous nous sommes dit, pour que nous soyons délivrés du péché, il faudrait être mort. Hein? Même pour être délivré de la cigarette, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait être mort. Donc ça, vous voyez la petite cigarette, là, vous avez pris la décision, maintenant je ne fumerai plus. Puis elle est belle, cette petite cigarette. Puis elle vous dit, tu vois comme je suis jolie, tu vois comme je suis belle, mais prends-moi, goûte-moi. Hein? Tu vous dis, non, j'ai signé que depuis aujourd'hui, je ne fume plus. Alors, elle continue, puis vous avez toujours les yeux sur elle quand même. Peut-être qu'il n'y en a plus qu'une, le paquet il est déjà loin, mais il y en a encore une, hein, parce qu'on a dit, il faut pas, ça pourrait être mortel de quitter tout d'un coup. Hein. Il faut y aller progressivement. Bon, et puis alors, on chantera tes louanges, tu n'es plus un empoisonneur, tu ne vas pas me faire avoir un cancer. Alors c'est une bonne œuvre. Mais voilà, elle est toujours là. Puis, pour finir, elle dit, pour moi, c'est la dernière. Elle vous possède. Hein? Elle nous possède. Alors, on est esclave de quoi? D'un petit bout de papier? Puis d'un petit quelque chose dedans? Qui nous empoisonne. Et moi, ce qui me fait tellement mal, c'est quand je vois des gens qui vont à l'église,
qui nous disent qu'ils ont pris le Seigneur. Bon, je respecte. Vous avez pris le Seigneur. Mais immédiatement après, à peine soudain, il commence de l'enfumer, ce cher Seigneur. Quel cancer il doit avoir. Et donc, Seigneur en eux, puis tout bon. Vous savez, mes amis, je voudrais que nous puissions comprendre. Je ne vais pas vous mettre sous la loi, parce que je pourrais en dire autant à tous ceux qui sucent des bonbons, même pendant les réunions. Ça fait un bruit infernal, ou c'est de la gomme, on a dit que c'était interdit ici. Hein. Puis ils sont tous là, ils font des grimaces à non plus finir. Si on doit supporter cela, en leur annonçant le glorieux évangile de Christ, le pain de vie, c'est la gomme, c'est tellement bon, ça purifie la laine. On est donc empoisonné. Pourquoi ne buvez pas quelques verres d'eau le matin un jour? C'est bon contre la constipation, ça ne coûte rien. Hein? Et voilà, ils l'ont dit là, ce que l'eau pouvait faire. Et vous savez, quand on voyage beaucoup, eh bien, forcément, on subit le décalage horaire, et puis tout cela, le corps sont récents. Eh bien, c'est un secret, les verres d'eau le matin. Buvez de l'eau, mes frères. Vous avez bu l'eau vive, eh bien, maintenant. Je n'ai pas dit l'eau de vie, hein. L'eau vive. Alors, buvez de l'eau. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y aura de la joie, si vous avez compris cela, que Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais qu'il nous a pris avec lui dans sa mort. Je vais vous dire, mais comment ça s'est fait, oui? Quand il a été crucifié, vous avez été crucifié avec lui. Quand il a été enseveli, mais vous l'avez dit dans votre baptême, vous avez été enseveli avec lui. Quand il est ressuscité, vous êtes ressuscité avec lui. Même quand il est monté, il vous a pris avec lui. Vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Christ, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors, chers amis, si ça c'est vrai, je vous dirais, mais moi je ne me sens pas du tout mort. C'est une question de sentir. La pièce, elle sent rien. La pièce d'argent, elle sent rien. Mais c'est une question de le croire, je suis mort, c'est vrai. La pièce, elle sent pas qu'elle est inerte. Mais moi aussi, j'ai pas même à sentir cela. Tu l'as dit, Seigneur, et c'est ça la foi. La foi active, la foi non seulement qui croit que Jésus est notre sauveur parce qu'il a porté nos péchés, mais la foi quotidienne qui dit quand le péché se présente, je suis mort. C'est vrai, Seigneur. Je suis mort. Un mort, vous pouvez le tenter de toutes les façons, des éclairs au chocolat, tout ce que vous voulez. Un manche là, une bonne choucroute, ça va permettre d'attendre. Le mort, il reste. Je suis mort, Seigneur. Il y a la victoire dans cette application quotidienne et constante de la mort de Jésus, portant toujours, partout, dans le corps, la mort de Jésus, là où cette vie voudrait se manifester, afin aussi que la vie de Jésus puisse se manifester dans notre chair mortelle, et que le monde qui nous entoure ne voit plus l'homme avec toutes ses faiblesses, mais Jésus. On n'a pas lieu de se glorifier. Si quelque chose de bien produit en nous, c'est le fruit de quoi? Le fruit de l'esprit, ce n'est pas l'œuvre de la chair. Le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la bienveillance et la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit n'est pas le produit d'un effort, mais c'est le produit de la vie. Tandis que les œuvres sont le produit d'un effort. Avec les œuvres, on se tue. On s'y tue et on est malheureux et on voudrait tout abandonner et on rejette. Frères et sœurs, que vous puissiez comprendre le prix de votre âme pour ce Père au cœur de neige, ce prix qu'avait la drache pour la femme qu'il a cherchée. C'est elle qui reconnaissait le prix, c'est elle qui savait ce qu'elle pourrait faire avec cette drache
Vous êtes là des draps, vous êtes de ces pièces d'argent. Peut-être son intelligence. Oh, la vraie intelligence, qu'est-ce que c'est? Se retirer du mal. C'est ce, l'explication de Job. Se retirer du mal, c'est cela l'intelligence. Alors laissez-vous prendre par la main du Seigneur. Et vous serez dans sa main. Retirer du mal. Voulons-nous prier? Et demain matin, j'espère que vous aviez lu cette parabole, non? Demain matin, on finira par la troisième parabole, par laquelle Jésus répond à ceux qui l'accusaient de manger avec les pécheurs et d'avoir compassion des misérables. La parabole du Père, ou comme elle est plus connue sous ce titre, la parabole de l'enfant perdu. La brebis perdue, la pièce d'argent perdue, le fils perdu. La puissance du bon berger pour retrouver sa brebis. La puissance du Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui nous possède. De cette sagesse éternelle, de cet esprit de sagesse, qui seul peut rendre nos vies utiles au Maître, et la puissance de l'amour du Père qui nous accueille et qui fait de nous ses fils bien-aimés. Prions. Ô Dieu, ce n'est pas devant nos yeux que ton travail doit se faire. C'est d'abord dans le silence de nos cœurs, dans un tête-à-tête avec toi, dans nos chambres ou dans nos dortoirs, où nous pouvons encore nous isoler dans nos pensées, pour rester en contact avec toi et te laisser soulager en profondeur et nous convaincre que par nous-mêmes, par nos efforts, depuis notre conversion, nous n'étions pas mieux que des perdus, car le changement n'était pas si extraordinaire si nous voulons être vrais devant toi. Alors, comme Esaïe, nous allons reconnaître nos fautes de chrétiens. Nous allons reconnaître notre faiblesse incurable et te dire merci de nous avoir tant aimés et de nous dire que c'est toi qui vas nous prendre en main et que c'est toi qui vas te servir de nous. Comme Marie, une fois encore, nous voulons nous laisser faire et te dire, Seigneur, qu'il nous soit selon ta parole. C'est la grâce que nous te demandons ce soir. Tu te tiens à la porte de nos cœurs et tu frappes. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Tu as le désir, ô Dieu, que notre Seigneur bien-aimé établisse un tête-à-tête avec nous. Que nous ayons une vie réelle, une vie intime avec Jésus. Et qu'ainsi, dans ce silence, un lien absolu, un lien ineffable s'établisse entre notre âme et celui qui nous a sauvés et qui veut manifester sa vie en nous, quelle que soit notre misère présente. Nous te louons et nous te bénissons parce que tu nous dis que ce soir, le 11 février, il y aura de la joie devant les anges de Dieu, ces anges qui nous contemplent, ces anges qui sont des esprits et qui sont employés envers ceux qui doivent hériter du salut. Oh, que ces anges puissent se réjouir en voyant des cœurs touchés. Et que, rentrant vraiment en nous-mêmes, nous puissions trouver le chemin de la maison du Père. Et que nous y soyons préparés pour la journée de demain, si nous devons la voir. Et si tu reviens cette nuit, que nous soyons assurés que tu nous prendras auprès de toi, dans la maison de ton Père, où tu nous as préparé une place. Si nous t'avons fait une place dans notre cœur, toi tu nous fais une place dans la gloire. Alors que le monde, qui occupe encore tant de place dans notre cœur, n'a à nous offrir en définitive qu'un trou où l'on jettera notre corps à notre mort. Toi, tu nous offres une place dans la vie éternelle. Que nous puissions saisir cette grâce, nous te le demandons pour la gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.